Alors, on voit qu'ici, il fait chaud dans cette salle, hein, par rapport à la température externe.
So, panelists, which...
Je vais demander aux membres du panel, Dan, c'est moi, Jeff Houston, Jim Galvin, Olafour et André, venez s'il vous plaît ici, à mes côtés. Ou là-bas. J'attends aussi. Il y a Julie, Cathy à côté. Jeff, si vous venez à mes côtés, vous pouvez venir aussi. Je ne sais pas à qui appartient ce sac. Dan York au micro. Bien, soyez les bienvenus pour cette séance de l'après-midi de notre atelier de travail du DNSSEC. Alors, si vous êtes assis sur une chaise au fond de la salle, vous pouvez venir ici autour de la table. Et l'avantage, c'est que vous avez des prises pour brancher vos ordinateurs autour de la table. Alors, on me dit que nous allons avoir un conflit entre mon lieutenant général à ma gauche et, étant donné qu'il est très grand, qu'ils sont très grands tous les deux personnes qui se trouvent à ma gauche, ça va être intéressant de voir le combat. Je vais commencer à prendre les paris, hein. Comment vous faites les combats ici au Maroc à l'épée Bon, écoutez, c'est pas grave. Plus sérieusement, on peut applaudir Afilia, Sira, ICDN. Afilia, Sira. ICDN, Dyne, nos sponsors. Et en particulier Kaor York à Dyne, qui est celui qui s'est chargé de tout cela pour nous. On n'est pas membres de la même famille, hein, même si on habite tous les deux dans le New Hampshire. Ce sont les hasards de la vie. Bien. Nous sommes branchés sur Adobe. J'aimerais commencer cette séance qui concerne le DNSSEC et l'algorithme de signature numérique à courbe elliptique, le CDSA. Voilà ce dont on va parler. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Passons à la première diapo. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les algorithmes DNSSEC? Pour générer les clés pour la signature, on les utilise pour les signatures DNSSEC, on les utilise pour les enregistrements DS pour la chaîne de confiance et pour la validation des enregistrements DNSSEC. Voilà ce pourquoi on utilise les algorithmes DNSSEC. Alors, voyons maintenant les registres actuels IANA. Il y a toute une série d'algorithmes qui existent. Jeff va en parler. Il y a un très petit nombre de ces registres qu'on utilise. Mais voilà les algorithmes qui sont disponibles actuellement. Ensuite, il y a de nouveaux algorithmes, c'est-à-dire les plus récents, c'est 5 ou 6 ans, hein, ça remonte à 5 ou 6 ans, ECDSA et GHOST. Le CDSA a très peu de taux d'adoption, jusqu'à il y a environ 4 mois, date à laquelle Cloudflare l'a lancé. Et on va parler des autres dans un instant. Donc la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est en raison de ce à quoi Danny a fait référence. D'abord, la rapidité dans la validation. Et ça, c'est discutable. Les clés sont plus petites, les signatures aussi, et une meilleure cryptographie. Et ce dernier élément est particulièrement important pour moi, parce que peut-être que vous savez que moi, à l'Internet Society, je travaille pour accélérer l'approbation du DNSSEC, l'adoption du DNSSEC. Et le problème particulier qu'on a maintenant, c'est qu'il y a une partie de la communauté sur la sécurité qui essaie de s'éloigner de du RSA 1024 bits. Et on essaie également de fermer les certificats TLS qui sont inférieurs au RSA 1024 bits. Donc la manière dont on fonctionne est différente. On a des DSK de 3 mois, 4 mois. On peut discuter de la situation, mais finalement, certains vont dire, voilà, 1024, ça, c'est vraiment pas bon. Et il faut s'en éloigner. Donc, passer au-delà de cela pour faire en sorte que le DNS et le DNSSEC soient plus sûrs. On veut s'éloigner de cela, de ces clés. Et donc, la courbe elliptique, pour l'instant, c'est la solution. Comme on l'a dit, il y a les aspects qui sont liés au déploiement de nouveaux algorithmes. Il faut penser là à la validation, à la signature, à l'hébergement du DNS et également des opérateurs de registre qui doivent accepter les enregistrements DNS. Du côté validation, on s'est penché là-dessus et on s'est aperçu que les résolveurs doivent être mis à jour avec les nouveaux algorithmes afin de mener à bien la validation. Donc, s'agissant du déploiement de nouveaux, il faut voir ce qui existe pour l'instant. On a déjà entendu parler des bibliothèques qui n'étaient pas mises à jour. Comment faites-vous pour faire cela ? L'un des éléments qu'on a identifié dernièrement, c'est que le document RFC 4035 dit que si on n'a pas la possibilité de soutenir les algorithmes, il faut voir du côté des choses qui ne sont pas signées. Donc effectivement, parce qu'on utilise le DNSSEC avec des algorithmes plus sûrs, en fin de compte, il y a des zones qui sont traitées comme si elles n'étaient pas sécurisées par le DNSSEC du tout. Du côté signature, le logiciel pour les serveurs DNS faisant autorité ont besoin de mise à jour, bien sûr. Il faut changer cela et ça peut avoir des incidences quand on passe d'un serveur à l'autre. Du côté des registres, des opérateurs de registres, pardon, certains accepte uniquement les enregistrements DNS avec certains algorithmes. Et le problème, c'est que du point de vue des programmes, on ne sait pas quel opérateur de registre accepte tel ou tel algorithme. Donc, on nous a suggéré ce qui suit. Par exemple, actualiser le feed EPP pour indiquer quels sont les algorithmes qui sont acceptés. Et là, on a une expérience en la matière de par le passé. Et on peut poursuivre les discussions là-dessus. Du côté bureau d'enregistrement, certains ont des interfaces web et ils n'acceptent que certains algorithmes. Voilà un exemple d'un bureau d'enregistrement qui va conserver l'anonymat. Mais vous aurez peut-être une petite idée. Alors, il s'agit d'un domaine Google. Donc, on demande à une personne le CDS1. Vous voyez une liste d'algorithmes. Ensuite, ils reçoivent toute une série d'algorithmes. Vous verrez qu'il y a aussi un chiffre à côté de l'algorithme. Ça, c'est un petit peu curieux aussi, parce que dans certains cas, les opérateurs d'hébergement DS ont ce type d'enregistrement. Donc, ils vous fournissent le numéro, mais pas l'algorithme. Et d'autres vous donnent l'algorithme, mais pas le numéro. Donc, les bureaux d'enregistrement vous montrent les deux, le numéro et l'algorithme. Donc, Jacques et ses collègues essaient de trouver des moyens pour faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas à rentrer dans ce genre de détails. Oui, alors, pourquoi est-ce que les bureaux d'enregistrement ont besoin de vérifier le type d'algorithme, pardon, tout ce qui concerne la sécurité aussi? Et avec les développeurs, le défi ici, c'est que si vous donnez à quelqu'un une liste de vérification, on a dit au vérificateur de vérifier les limites. Et finalement, il n'y a jamais de mise à jour lorsqu'il y a de nouveaux algorithmes. Donc, s'agissant de la liste IANA, beaucoup de logiciels qui vérifient les algorithmes existants ne vont pas faire de mise à jour. Vous voyez ici les différentes étapes de la discussion à mesure qu'on introduit de nouveaux algorithmes. Il faut que l'on voit comment faire pour promouvoir la valeur ajoutée de ces algorithmes et comment faire en sorte que ces changements aient lieu. Donc, on peut en parler ici et en dehors de ces panels. Il faut essayer de voir ce qu'il faut faire pour que notre DNSSEC soit encore plus sûr. Voilà, j'en ai fini. J'allais suggérer que Jeff nous en dise un peu plus par rapport à ce qu'il a vu dans le domaine du DNSSEC. D'ailleurs, si vous avez des questions spécifiques qui s'adressent aux membres du panel, Vous pouvez les faire maintenant. Peut-être que si c'est des questions de précision ou des questions un peu plus longues, on attend la fin des interventions. Jeff Houston, je travaille à l'APNIC. On a énormément travaillé sur les mesures et l'un des aspects de ces mesures, c'est justement la mesure du DNSSEC. Je vais parler du niveau de soutien du ECDSA du côté des résolveurs. Donc, je ne vais pas parler du type d'algorithme qu'on a utilisé, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les résolveurs. Si vous signez vos zones avec le CDSA, P256, il s'agit de l'algorithme numéro 13, vous allez être capable d'utiliser cet algorithme et de voir s'il est suffisamment sûr ou pas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit, et moi j'ai toutes les raisons de le croire, que la force de l'ECC, c'est qu'il y a plus de bits. Donc, d'après ce qu'on me dit, 256 bits d'ECC, ça équivaut à 3072 bits de RSA. Et les spécifications originales du DNS disaient qu'une fois qu'une réponse DNS obtient plus de 256 bits de pilot, alors on ne peut pas avancer plus. Et une fois que vous allez au-delà de 1000 octets, certains on ne peut pas avoir certaines réponses. Et ensuite, si vous allez au-delà de 1500 octets, là, encore problème grave. Et si vous utilisez V6, alors rien ne va vous aider. Donc, il y a des problèmes graves vis-à-vis de la fragmentation. Donc, pour les plus petits, il vaut mieux utiliser des plus petits algorithmes. Voilà le type d'exemple de CDSA avec les mêmes questions de CDSA. 527 octets, presque en dessous de la limite. Et la même chose, RSA 937. Alors, oui, faisons-le, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux signer les choses sur le CDSA, mais vous, vous allez devoir accepter ma zone signée. Donc, la véritable question, c'est si je fais cela, est-ce que vous allez me croire? Donc, j'essaie de voir si j'utilise le CDSA, quel résultat va valider cette signature? Lorsque vous utilisez Google Ads pour mesurer le réseau du côté de l'utilisateur, les ads sont de plus en plus utiles. Elles sont très simples et elles font ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire chercher une URL. Donc, c'est un petit peu spécial parce qu'elles ont une composante DNS et une composante web. La composante DNS dépend de moi. Pour ce qui dépend du nom, ce nom est unique et utilisé une seule fois. Et Google agit très bien parce que si vous avez une publicité qui n'attire personne, Google veut vous aider à publier et obtenir de l'argent avec votre publicité. Donc, dans ce cas-là, l'ad cherche 5 URL avec un nom unique. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur essaie de résoudre cela, ses enquêtes arrivent sur mon service. Donc, j'essaie d'avoir des contrôles avec des tests. Donc, le contrôle absolu, c'est aucune signature DNS sec du tout. Ensuite, des signatures basées sur le RSA. Troisième test. Qu'est-ce qui se passe si je vous donne quelque chose qui est volontairement cassé? Donc, vous devriez pas croire ce que je vous dis. Vous devriez accepter ce RSA. Et je répète ces deux tests en utilisant exactement le même mécanisme et en utilisant le CDSA P256. Donc, voilà ce à quoi ça ressemble en termes URL, avec des étiquettes communes. Et voici donc les 5 URL différents. C'est pourquoi, si vous avez vu la publicité, vous essayez de résoudre ces 5 noms de domaines différents que vous voyez en fond. Alors, il y a une vue simple et la réalité. La vue simple, c'est je vous pose une question qui est transmise au serveur et le serveur vous répond. Ça, c'est très simple. Une requête, une réponse. Avec la validation DNSSEC, c'est un petit peu plus de travail, mais c'est encore simple. Vous me posez une question, je vous renvoie une réponse signée. Vous validez cela d'abord en demandant l'enregistrement DS, puis la clé zone. Donc, ce que je devrais voir, c'est si vous validez, je devrais voir ces 3 requêtes plutôt qu'une. Et voilà ce que je devrais voir. Je vous envoie cela et je devrais voir 3 requêtes pour ces 3 enregistrements. Le DNS, ce n'est pas du génie informatique, mais c'est un fouillis. Alors, il y a des serveurs, des réplications de requêtes. Tout ce qui peut se produire s'y produit là. Donc, il manque des choses parce qu'il n'y a pas de TTL. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Mais c'est un fouillis de choses. Chaque chose ayant son propre temps. Alors, vous voyez ici un exemple très simple de cette réverbération. Moi, j'envoie une question au client et les 5 résolveurs suivants me posent tous une question que j'ai envoyée initialement au client unique. Le premier résolveur, c'est quelque chose qui est opéré par le fournisseur de services Internet du client. Ensuite, il y a une requête qui est validée. Ensuite, c'est Google. Et c'est un slave engine de Google avec le DNS key DSDS. Vous n'avez pas aimé le premier DS? Ben, c'est un peu étrange. Il y a un deuxième slave, un 55, qui semble travailler avec le premier slave parce que là, il manque deux clé. Et ensuite, le deuxième résolveur FSI est également impliqué. Et s'il manquait quelque chose, il y a un autre résolveur Google qui me demande l'enregistrement. Donc, en fait, le fait que ces trois adresses Google qui appartiennent au même esprit, ça, c'est bizarre. Et ces 200 résolveurs qui font partie du même FSI, se demandent ce qui se passe ici. Donc, plutôt que d'avoir 3 requêtes et 3 réponses, vous voyez, il y a 12 requêtes, 12 réponses, et c'est difficile à comprendre, mais on a l'impression qu'il s'agit de validation. Alors, voyez cette diapo. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de requêtes? Parce qu'elles ont été mal signées. Donc, dans le premier résolveur 255-224-68 qui dit voilà, je n'ai pas pu faire cela. Alors, il ne dit pas cela parce que dans le DNSSEC, on ne dit pas je ne peux pas faire ça. Mais il dit servi fail. Donc, on essaie Google. Google dit non, je ne suis pas serve fail. Et serve fail sur le DNSSEC, c'est vraiment pas bon parce que ça donne lieu à beaucoup de requêtes. Le CDSA. Comment pouvons-nous voir combien de personnes se penchent là-dessus? Alors, la première est simple et concerne surtout les statistiques. Donc, je compte le nombre de requêtes DS et DNS qui, RR, et les réponses pour...
Cela fonctionne durant 45 jours. J'ai fait 760 000 tests auprès de personnes. Vraiment, les publicités Google passent vers beaucoup de personnes. Donc, toutes ces personnes ont vu la publicité. 27% avaient le DNSSEC dans le RR et ont vu dans le RSA et ont vu la publicité. V6 vraiment très jaloux de ce chiffre. ECDSA, 23%. C'est un peu bas comme chiffre. Alors, on continue, on va plus vite, j'ai plus le temps. Donc, ce qui se passe, c'est que 1 sur 5 qui peut faire RSA ne peut pas faire ECDC, ne feront pas ECDC. 1 sur 5, c'est mieux qu'avant. En septembre 2014, on voyait 1 sur 3 qui pouvait faire le DSA sur le RSA et ne pouvait pas faire le CDSA. Donc, nous améliorons si on regarde les statistiques. Maintenant, je vais parler un peu plus en détail. Je vais essayer de faire un peu plus de recherche pour vous. Ce que je regarde ici, c'est la requête critique qui dit CECDSA et qui vient des infos DS. Si vous regardez les mots de nos anciens, si vous voulez, si vous regardez un peu, c'est l'importance vient des informations DS. Ensuite, c'est vraiment quand je vois quelque chose dans le DS que je ne connais pas, j'abandonne. Ensuite, voilà, ça m'amène vers la vraie réponse en utilisant une participation beaucoup plus détaillée. 1 sur 6 clients qui utilisent les résolveurs et qui performent le DNSSEC n'utilisent pas le RSA pour valider avec ECDSA. Est-ce que c'est efficace? Voilà, c'était mon résumé. Je voudrais vous dire, si vous habitez sur l'île de la Dominica, 90% utilisent vous avez 90% d'échecs. Si vous habitez en Nouvelle-Zélande, vous avez aussi un pourcentage très élevé. Si vous habitez en Afrique du Sud, 75% d'échecs, c'est mauvais aussi. Donc, même s'il y a vraiment une mauvaise réponse sur le 1 sur 6, pourquoi est-ce que cela fonctionne ainsi? Nous avons pu identifier des résolveurs uniques, individuels. La plupart d'entre eux qui ne supportent pas CDC sont gérés par des compagnies téléphoniques. Et dans ce secteur, on sort les choses d'une boîte, on enlève l'emballage et on commence à utiliser l'outil. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Donc, tel résolveur contribue à l'échec, au taux d'échec que nous avons. Si vous aviez des personnes qui comprendraient l'IT, la technologie, nous n'aurions pas ce problème. J'ai fait ça en plus, en moins de temps que prévu. Merci. Dan York, merci Jeff. C'était très intéressant d'entendre ces informations. Est-ce que vous voulez parler, Jeff, du côté opérateur de registre? Jim Galvin d'Alphilias au micro. Nous allons vous donner probablement de mauvaises nouvelles ou des nouvelles que vous préféreriez qu'elles soient meilleures. Mais je suis là pour vous donner de bonnes nouvelles. En fait, du côté opérateur de registre, nous avons un rôle critique dans cet espace. Les opérateurs de registre eux-mêmes sont des consommateurs de ces technologies et à cause de cela, et comme nous signons des TLD, nous devons trouver des solutions disponibles. Il est donc important de savoir que les opérateurs de registre ont des exigences qui viennent de deux endroits. Les normes, qui sont bien sûr en train d'être élaborées. Nous avons une liste d'algorithmes de validation et aussi, de l'autre côté, en tant qu'opérateur de registre et en tant que GTLD, surtout en tant que GTLD, nous sommes des parties contractantes de l'ICANN et il y a des exigences qui viennent des politiques de l'ICANN. Et puis, nous devons y faire très attention. Mais en dehors de cela, il y a de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont faciles à régler, des choses qui peuvent être faites pour pouvoir se soumettre aux exigences de ces algorithmes. Et en tant qu'opérateur de registre significant, nous avons énormément de fournisseurs et de TLD que nous soutenons. Donc, nous avons un besoin d'un service générique pour donner du service à tout le monde. De l'autre côté, dans l'espace où contribuent les opérateurs d'enregistre, il nous faut assister les bureaux d'enregistrement, surtout dans l'espace GTLD. Parce qu'encore une fois, vous avez des exigences qui sont mises en place et vous devez suivre cela par rapport à l'ICANN. Il y a des règlements qui doivent être mis en place. Nous devons permettre aux bureaux d'enregistrement qui ont des serveurs DNS et qui veulent de l'assistance et qui ont des algorithmes, nous devons les aider à obtenir ces infos DS et de les mettre dans la zone TLD pour qu'elles soient disponibles. Et cela ne fonctionne pas toujours. Nous voudrions améliorer cela. À notre avis, nous savons que nous avons l'avantage. Nous voulons soutenir les TLD, des TLD différents. Et pour nous, encore une fois, les restrictions sont limitées en ce qui s'agit de ce que les bureaux d'enregistrement doivent faire. Nous allons accepter tous les algorithmes qui sont validés parce que du côté des exigences de la CAN, on ne le permet pas. Il y a quelques questions en termes d'inopérabilité avec les bureaux d'enregistrement. Certains d'opérateurs de registre préfèrent des infos clés pour les mettre dans la zone TLD. Donc, les bureaux d'enregistrement nous posent un problème là-dessus. Mais il faut que les choses soient valides et régulières. C'est la bonne nouvelle. Il y a des opérateurs de registre qui sont plus focalisés ou qui... des TLD, des fournisseurs qui ont une variété de types de restrictions. Donc, ils ne vont pas forcément accepter l'algorithme, mais vous allez voir que dans le nouvel espace GTLD, surtout ceux qui supportent cela, il y a moins de restrictions. Et c'est ce qui fonctionne bien pour nous. Donc, en résumé, ce que je peux dire, c'est que nous avons donc des requêtes qui nous viennent de l'extérieur, ce ne sont pas forcément des exigences technologiques. Si la technologie est là, nous sommes là pour supporter cette technologie. Mais nous devons suivre des normes qui nous disent que ce que l'on peut faire. Donc il est important de garder à l'esprit que notre espace dans cet écosystème est mené par les politiques que nous devons suivre vis-à-vis de notre relation contractuelle avec la CAN. Donc, ce sont des problèmes qui sont faciles à régler. C'est la bonne nouvelle. Nous voulons être un bon acteur et un bon partenaire. Je vais passer la parole à vous autres pour que vous parliez des choses négatives. Dan, au micro. Merci, Jim. Vous m'avez entendu parler de ce que nous devons faire pour pouvoir changer les algorithmes. Nous en avons entendu parler de la part de Jeff pour ce qui est validation. Nous avons entendu Jim dire que les registres, les opérateurs de registres veulent bien le faire et appliquer ces changements. Mais maintenant, Olafur va nous parler de ce qu'il voit dans ce processus, qu'il observe. Et ensuite, nous passerons à André, qui nous parlera des nouveaux algorithmes qu'il veut lancer. Et puis ensuite, nous aurons des questions, des réponses. Moi, j'ai des questions d'ailleurs. Mais j'attends vos questions aussi. Pensez-y, alors que maintenant, nous allons passer à Olafur. Olafur au micro. Nous avons déployé des nouveaux algorithmes DNSSEC cette année. Non, pardon, l'année dernière. L'année était longue. Il s'agit des choses que nous avons trouvées. Je suis désolée si je ne suis pas aussi amusante dans ma présentation que mes collègues ce matin, mais nous ne pouvons pas être aussi bons que les gens qui ont parlé ce matin. Désolée. Je vais essayer d'être polie pour les interprètes. On m'a déjà rouspété au Brésil parce que je parlais trop vite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes les premiers à faire cela à grande échelle. Nous travaillons donc très dur pour que les autres nous suivent parce que nous pensons que nous faisons la bonne chose pour de raisons très variées. La raison que nous avons apprise, c'est que le modèle d'enregistrement de ACAN qui a été copié par beaucoup de TLD est cassé parce que les opérateurs DNS n'existent pas dans ce modèle. Et c'est eux qui devraient propager cette information au lieu de passer à travers la chaîne des bureaux d'enregistrement. On peut regarder avec une vue très simple du DNS. Ce qui est beaucoup plus compliqué que les gens qui les politiques s'en rendent compte. Il y a les serveurs autoritatifs, les résolveurs et les clients. Ils doivent travailler ensemble et de façon très harmonieuse. Et puis il n'y a aucun problème entre eux. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de délai dans les mises à jour. Non. Et personne ne se préoccupe des brevets. Prochaine diapo. Beaucoup de ces systèmes que les gens utilisent pour publier des informations dans le DNS sont basés sur ce qui s'appelle des systèmes de provision. Il y a le genre de fichiers qu'utilisent les gens. Il y a plein de choses, plein de façons de le faire. Toutes ces ARCS qui sont utilisés. Quand quelque chose doit être publié dans le DNS, toute organisation doit faire ses propres mises à jour pour ses outils, sur ses interfaces, afin de publier quelque chose de nouveau. Cela ne s'applique pas seulement au DNSSEC. Donc, le DNS est devenu... Bon, vous verrez ça plus tard. Vous verrez ce que ça devient plus tard. Passons à la prochaine diapo. Bon. Comme Dani l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas nos acronymes? Il peut y avoir des moments au niveau du opérateur de registre qu'il y ait des règlements qui disent « nous permettons ces algorithmes ». Alors, le logiciel n'est pas assez bien entretenu ou le HSM ne le supporte pas et il n'y a pas de développeurs. Puisqu'il y a des gens qui utilisent le HSM, ce HSM ne supporte pas les nouveaux algorithmes. Il peut y avoir aussi des politiques nationales qui dictent ce qui doit être fait. La direction ne fournit pas les ressources nécessaires. Un opérateur de registre a pris un an pour soutenir l'algorithme numéro 13 à cause du fait qu'il n'avait pas assez de ressources. Je ne vais pas donner de nom. Et pour être juste, il est très difficile d'expliquer au directeur qu'il y ait des bénéfices à faire ces choses nouvelles. Ils vous disent, est-ce que ça va augmenter vos revenus? On leur dit non. Est-ce qu'on va avoir meilleure allure sur le marché? Peut-être. Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Peut-être. Donc, passez au prochain sujet. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, tout le monde pense que ce n'est pas leur problème. Nous avons aussi ce problème de déploiement pour la chronologie crypto. En assumant qu'il n'y ait aucun brevet, de problème de brevet, et que nous avons seulement affaire à la communauté académique, et qu'on accepte que cette technologie crypto est OK. Bon, je vais y donner 10 ans, peut-être même 7 ans. Il y aura des personnes intéressées qui vont vouloir commencer plus tôt, et puis il y en a d'autres qui voulont faire plus tard. Le nouvel algorithme va être défini d'ici 10 ans avant que le IETF le standardise. Je pense que pour que ce soit inclus dans les librairies, ça va prendre entre 2 à 12 ans. Bien sûr, pour les spécifications des LSX, ça dépend du IETF. Et maintenant, on parle des cycles de lancement et du software DNS. Pour le 13, 14, 15, quel que soit le nouveau numéro d'algorithme que nous allons utiliser, de façon optimiste, on parle d'un cycle de plus de 2 ans. Si nous parlons d'entreprise, du logiciel entreprise, on parle de 6 ans. Je vois encore qu'il y a des open bind sur l'Internet qui sont encore à 3. Quelque chose qui a été lancé à moins de 3. Presque moins de 3. Donc, c'est le cycle pour tous ces niveaux d'entreprise. Au niveau de l'organisation, du logiciel d'organisation, non. C'est fait quand quelqu'un est prêt à le faire et insiste pour que le travail soit fait. Prochaine diapo. Si nous devons rajouter les nouveaux algorithmes, il faut donc faire cela. C'est une seule tâche, motiver le reste du monde pour qu'il nous suive. Et c'est très difficile de faire cela. Nous ne pouvons pas assumer que les gens savent ce qu'ils font, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on fait de l'installation quelque part, est-ce qu'ils comprennent exactement ce que l'on fait? Nous n'avons aucune idée de cela. Et puis, il y aura beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ça se passera jamais, ça fonctionnera jamais. » Mais ça marchera. Prochaine diapo. Nous pouvons vraiment obtenir l'attention des gens de temps en temps, mais pas toujours. Donc, il faut vraiment qu'on ait une bonne raison pour introduire ce nouvel algorithme. Il faut avoir des plus petites signatures, il faut avoir des algorithmes plus puissants, il faut que l'algorithme soit plus rapide, avec des propriétés de sécurité qui sont aussi bonnes que celles d'aujourd'hui. Il faut trouver les bonnes raisons, il faut quantifier les raisons et surtout, il faut éduquer les gens qui sont dans l'industrie du DNS, qui sont opérateurs de DNS. Ce n'est pas un status quo, les choses vont changer de temps en temps et jusqu'à ce qu'on puisse amener les cryptographeurs à inventer des algorithmes qui ne sont pas, disons, cassables, nous serons dans cet espace. Prochaine diapo. Il doit y avoir une bonne raison, comme je vous l'ai dit. Donc, il ne faut pas être, faut pas laisser tomber les algorithmes qu'on pense qu'ils sont meilleurs que l'autre, qu'on ne soit pas. Il faut comprendre vraiment. Il faut mettre à la retraite les anciens algorithmes. Et ce serait bon si on pouvait retirer l'option de retirer l'algorithme numéro 4. Nous devons avoir de meilleurs paramètres et nous devons être capables de démontrer que les choses fonctionnent. Et cela va prendre beaucoup de temps. Donc, nous travaillons comme James l'escargot ou la limace. Pardon. Dan, merci, Oliver. Maintenant qu'Oliver nous a expliqué pourquoi tout cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps et, ou que cela ne passera pas du tout, et on va demander à André maintenant pourquoi est-ce qu'on doit, on doit s'assurer que les choses fonctionnent. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Ah, on est d'accord en fait, donc on ne va peut-être pas se battre. Je suis André Sneu, je suis de Cisetnik et je voudrais parler des nouvelles courbes du DNSSEC. Je suis désolée pour les petites lettres. Moi, je ne les vois même pas, les diapos. De toute façon, il y a un travail qui est fait par Monsieur Bernstein, qui est vraiment très connu dans l'industrie. C'est une revanche pour lui d'introduire son algorithme dans le DNSSEC. Donc, si vous connaissez cette courbe, elle a été faite par lui et par Tania, qui vient d'une université allemande. Il prouve qu'il y a une différence entre les propriétés de différentes courbes. Ils sont définis par un ensemble d'exigences pour que les algorithmes de courbes elliptiques soient sécurisés. Je ne suis pas un chercheur dans la sécurité. Je connecte les points les uns avec les autres. Prochaine diapo. Il y a un autre ensemble d'algorithmes. C'est avec des propriétés différentes de l'ECDSA. Donc, E2DSC a une bonne performance, une performance élevée, pas aussi élevée que le travail qui est fait pour le DCSA, mais c'est quand même assez intéressant. Ça ne demande pas un nombre unique pour la signature. C'est vraiment des petites clés et je les définirai dans le DNSSEC, que je définirai dans le DNSSEC. Les formules sont unifiées de façon puissante, donc elles sont valides sans exception. Donc, l'algorithme est résistant à la collision. Prochaine diapo. Voilà deux courbes qui ont été adoptées par le groupe qui se préoccupe de la cryptologie à l'IETF. La ED25519 et la ED4448 qui s'appelle Goldilocks. Ils ont été définis en 2006 et en 2014. 2006, ce n'était pas la date de votre présentation? Bon, ensuite, elle a été adoptée par l'IETF. Donc, ça va, nous sommes sur la bonne voie. Alors, la cible est de 128 bits pour la cible de sécurité. La deuxième courbe va plus vite encore parce qu'elle a été définie en 2014 par Mike Amberg et elle est encore plus puissante d'ailleurs. Donc, c'est comparable au RSA 15000 qui est un chiffre très important. Donc, il y a deux versions préliminaires pour le DNSSEC, pour les clés. Pour le DNSK, pardon, j'ai soumis la deuxième au groupe de travail hier, donc au groupe de travail Curdon. Donc, elle sera peut-être adoptée. Donc, pour la deuxième, pour la ED2559, il y a consensus pour l'utilisation au DNSSEC. Si vous avez le temps, faites la révision du révisez le document. On est en attente pour que cette version préliminaire soit adoptée. La version DRA-IRTF EDDSA. Et la deuxième version préliminaire a été soumise hier. Il y a un opposant qui s'appelle Paul Hoffman. Paul Hoffman. Et si vous pensez que ce serait une bonne façon, il y a une autre façon d'utiliser ED448, venez au groupe de travail Curdon, nous le dire afin qu'on puisse savoir quoi faire. Il y a plusieurs options sur la table. Peut-être peut-on fusionner les deux ensemble, ça m'est égal, mais nous devons prendre une décision à la fin de la journée. Il devrait y avoir une version préliminaire à venir, quelque chose qui va donc éliminer les vieux algorithmes qui ne sont pas utilisés pour l'instant. Prochaine diapo.
Alors, je pense que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je dirais simplement que il y a eu un atelier de travail à Buenos Aires organisé par le DNS OARC. On a invité plusieurs revendeurs. Donc vous êtes invité à participer au prochain atelier qu'on va organiser. Donc on sait que ça prend beaucoup de temps. Mon objectif, c'est qu'une fois qu'il y aura un roulement de clé dans 10 ans, la clé de racine, on pourra utiliser peut-être cela comme algorithme. Et quand je dis 10 ans, je crois que je suis un peu optimiste. Dano Micro, merci. Merci Andrei. Oui, effectivement. Alors, oui, effectivement, quel sera le calendrier 2026 pour la prochaine KSK? Écoutez, j'ai une question pour André. Lorsque vous dites que l'atelier de travail DNS-OARC, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus pour dire ce que vous voulez faire? André, au micro, oui, c'était mon idée. Et dans mon équipe, il y a des gens du côté opération. Et on devrait parler plus du cycle de vie de déploiement. Et j'aimerais continuer cette discussion pour voir comment faire en sorte que ça aille plus vite. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc, il y a un problème avec le DNS qui fait qu'on ne peut pas le faire. Donc, je pense qu'il est temps de changer de paradigme avec lequel nous travaillons. Donc, ça va peut-être être dur, mais il faut changer ce paradigme et on doit être souple en termes d'algorithmes dans le DNSSEC pour faire en sorte que les choses fonctionnent à l'avenir. Et entre la définition d'un algorithme et son application, il y a beaucoup de temps qui peut s'écouler. Nouvel intervenant au micro. Oui, donc en fait, le gros problème, c'est la certification. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Il y a un programme qui a récemment été lancé pour revoir la méthodologie pour le travail de certification. Donc avec cela, est-ce que vous allez pouvoir aller plus vite pour permettre l'application des algorithmes? Parce que ça prévoit une mise en œuvre d'ici 2 ans. Nouvel intervenant au micro. Donc, ce que vous dites, c'est que Qu'est-ce qui empêche cela? Quels sont les facteurs qui empêchent cela? Nouvel intervenant au micro. Oui, il y en a deux, en fait, parce que on envoie des mises à jour régulières. Donc, les mises à jour pour les algorithmes, ça n'est pas ça le problème pour nous. Donc, ça, c'est une première chose qui est très importante. Et d'ailleurs, j'ai oublié la deuxième. Attendez, je vais m'en souvenir. Hein. Dan au micro, oui, effectivement, ça fait partie de votre réponse. Comment faire les choses plus vite? Parce que vous, votre navigateur, travaille de telle manière et peut travailler d'une autre manière. En tout cas, il va obéir en fonction des instructions que vous lui donnez dans le cadre du DNS. Ça y est, je me souviens, dit le nouvel intervenant. Et si vous êtes une grande société, en fait, ce sont les juristes qui nous retardent. C'est le problème des juristes. Dan au micro. Vous parlez de Google? Nouvel intervenant au micro. Je pensais que vous alliez proposer des messages pour dire, votre système n'est plus à jour, etc. Veuillez utiliser autre chose. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr, on peut le faire. Nouvel intervenant au micro. Autre question, si vous le permettez? Je voulais répondre à quelque chose qu'a dit Olafur. Les orateurs se coupent, je n'arrive pas à comprendre. Bien. Donc, l'orateur se reprend. Je voulais insister sur un point, parce que je sais que dans ce genre d'atelier, on préfère se concentrer sur les aspects techniques. Mais ici, à l'ICANN, c'est important de réitérer quelque chose qui a été dit auparavant à cet atelier de travail, dans les réunions précédentes. Et Olafur l'a dit ici en fin d'intervention. Et je voulais insister dessus, mettre le doigt dessus. Il existe réellement un problème fondamental ici en termes de soutien vis-à-vis de tout ce qui a à voir avec le DNSSEC. Et c'est le fait que les fournisseurs de services DNS ne sont pas reconnus en tant qu'entité distincte dans l'écosystème, en tout cas dans le système ICANN. C'est facile pour moi de dire, vous savez quoi, moi je vais pas entraver votre travail, ça n'est pas mon problème, et la plupart des opérateurs de registre ne s'y opposeront pas. Certains, pour des questions juridiques intéressantes, s'y opposeront peut-être, mais ce ne sera pas le cas de la majorité. Donc, même si ça peut être vu comme faisant partie du problème et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas fournir, dans les politiques de l'ICANN, on ne peut pas le faire. Donc, il s'agit de ne pas perdre de vue cela. Pour ce qui concerne la possibilité de déployer tout cela. Donc, merci, Olafur, de l'avoir mentionné. Je voulais simplement le réitérer. Je sais que vous en avez parlé lors de vos ateliers de travail précédents, mais je voulais insister sur ce point. Merci. Dan au micro, oui. Jeff, vous savez provoquer, donc allez-y, je vous donne la parole. Oui, alors pour ce qui concerne cette courbe elliptique et la cryptographie, les résolveurs n'acceptent pas tous ces courbes. Pourquoi? Parce que dans le monde de la cryptographie, il y a toute une série de monocultures. Et il est vrai qu'un grand volume de logiciels utilise des bibliothèques. Alors, ici, ce qui est intéressant avec la cryptographie à courbe elliptique, c'est que pendant longtemps, jusqu'à, me semble-t-il, au début des années 2000, milieu des années 2000, il y a eu un litige dans le domaine de la propriété intellectuelle pour savoir à qui appartenait cette courbe elliptique de cryptographie. Et donc, ça a donné lieu à un certain nombre de paquets de logiciels pour laisser cette cryptographie en dehors du paquet. Donc, tout ce qui tournait autour de cela à l'époque, peut-être que c'était Red Hat 3, je ne sais pas, ça a donné lieu au fait que les premières versions n'incluaient pas cette courbe elliptique et ça a duré pendant plus de 10 ans. Et nous pensons que s'il y a un paquet qui apparaît aujourd'hui, il va inclure la courbe elliptique. Donc pourquoi est-ce que les utilisateurs continuent de promouvoir des choses qu'ils ne comprennent pas? Parce que il existe des choses très vieilles parfois, et la combinaison d'incertitudes par rapport aux droits d'utilisation de certains de ces droits de propriété intellectuelle qui constitue un gros problème pour nous. Et à cela s'ajoutent tous les problèmes de normalisation et le cycle extrêmement long par rapport au résolveur d'NSSEC. Ça, c'est vrai dans le domaine des opérations que pour beaucoup d'opérateurs ISP, ce type de résolveur a un cycle de vie limité. Il peut être utilisé qu'une seule fois. Donc, dans nos micros, combien de gens ont un routeur à la maison, ce qu'on appelle un routeur? Vous voyez de quoi je parle, hein? Sur ces personnes, combien de personnes ont actualisé ce routeur récemment? Ah, nous sommes vraiment très, très au point ici, hein? Alors, au cours de la dernière année, ah, vous en avez acheté un autre. D'accord. Autre question. Vous avez tous une famille. Vous l'utilisez à la maison. Et combien de membres de votre famille, pensez-vous, ont actualisé ce routeur? Vous, vous répondez à toutes vos questions, à toutes les questions, hein? Bon, ça, ce sont les premiers élèves de la classe, hein, point CZ et autres, hein. Donc, bien sûr qu'il faut actualiser. Alors, pour les gens qui n'appartiennent pas à la République tchèque ou à l'Europe, qui peut répondre? Non, je crois que je m'adresse à un public qui n'est pas le bon. Robert? Alors, je suis un citoyen anonyme. Si vous avez une ancienne installation de serveur que vous voulez actualiser, peut-être qu'il y a 4 ans, on n'avait pas besoin de validation pour utiliser le CC. Dan au micro. Oui, vous voulez dire que la grande majorité des utilisateurs ne méritent pas cela, c'est ça? J'ai dit que j'étais anonyme. Vous voulez répondre? Andrei au micro. Oui, je voulais répondre aux commentaires de Jeff. Oui, il y a des litiges touchant aux droits de propriété intellectuelle et qui touchent aux algorithmes dans le rapport dont j'ai parlé. Oui, autre intervenant au micro, 2013 et 2014. Jeff au micro. Oui, il n'y a pas de litige par rapport à l'utilisation aujourd'hui. Outre Warren. Autre intervenant. Oui, je ne peux même pas en parler avec mes avocats par mail. Danny? Du point de vue des bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre, pourquoi faire des validations sur ces algorithmes? Alors, vous donnez une liste aux gens et vous validez? Warren au micro. C'est parce que les utilisateurs ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce qui se passe avec les bureaux d'enregistrement actuellement, c'est que lorsqu'il y a un numéro, 1, 2, 3, etc., c'est très difficile pour les utilisateurs de bien comprendre ce que ces numéros veulent dire. La plupart des utilisateurs n'ont aucune idée de ce que cela veut dire. Lorsqu'ils voient 13 ECDSA, ils sont perdus. Ou ils pensent qu'ils ont besoin de 13 copies de ce ECDSA. Donc, il y a plusieurs cases. D'abord, validation. Et lorsqu'il y a une case DS, il faut la cocher. Donc, il faut faire un contrôle, une vérification. Danny au micro, oui. Vous avez très peu de choix. Mais si vous utilisez ce RPI, voilà, vous avez la liberté de le faire ou pas. Mais pourquoi il y a validation, en fin de compte? Jeff au micro. Oui. Ici, il faudrait faire la part des choses entre les questions, parce qu'il y a une variété de points de vue là-dessus. Donc, du point de vue des opérateurs de registre, il est vrai que pour nous, nous n'avons pas de restrictions particulières par rapport à ce que vous faites. Donc, on vous laisse faire tout ce que vous voulez, à condition qu'il y ait une validation de l'algorithme. Dany au micro. Oui, c'est justement la question que je pose. Pourquoi il faut valider cela? Jeff au micro. Oui, vous avez raison. D'un point de vue pratique, on n'a pas besoin de le faire. Mais on essaie de respecter les normes. Donc, de mon point de vue, vous ne devriez pas être autorisé à faire quelque chose que la communauté ne considère pas comme étant valide. On essaie de faire notre possible pour que ça ne se produise pas. Donc, une fois que vous vérifiez ce genre de choses, on peut discuter du bien fondé de cela ou pas. Mais d'un autre côté, parfois, si vous êtes opérateur de registre, si vous prenez la clé et vous allez créer l'enregistrement DS au nom de l'utilisateur, il y aura peut-être des restrictions par rapport à ce que vous allez faire là. Et là, il y aura certainement des limites par rapport à l'algorithme que vous pourrez utiliser et il faudra l'appliquer. Donc c'est une limite de ce côté-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne prend pas de clé, on ne prend que le DNS. Donc, on fait ce type de vérification du bon état de santé de cela. Oui, et ensuite, on a tellement asséné l'esprit des gens sur le fait qu'il fallait passer par cette vérification, ce contrôle, qu'il y a une vérification des limites. Jeff. Oui, dernière chose. Malheureusement, parfois, un opérateur de registre particulier, ça peut être un État, aura son propre choix à prendre d'utiliser ou pas son propre algorithme. Et ça, il faut le prendre en considération, il faut l'accepter, ça ne sert à rien de discuter là-dessus. Oui, on a une question dans la salle, puis sur le chat. Oui. 16 secondes, je vais essayer de poser ma question en 16 secondes. Nouvel intervenant micro. Marc, je voulais répondre à deux choses. D'abord, nous avons un service clientèle. Donc, on ne laisse pas que les clients fassent des choses réellement stupides. Deuxièmement, notre vérification d'état de santé... Sanity checking en anglais, on le fait aussi. Et par rapport à ce qui a été dit par Olafur, nous avons ajouté aussi un petit bouton pour dire « Obtenez mes enregistrements DS ». Donc, par rapport au service, au nom de domaine, voilà la clé. Si c'est l'enregistrement DS que vous voulez obtenir, le voici. Pas besoin de faire un copier-coller. Oui, effectivement, c'est parce que nous, opérateurs de registre, on parle au bureau d'enregistrement et au titulaire de nom de domaine. Dan au micro, oui. Alors, je vois qu'il y a une question. Non, en fait, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, dit Julie. De Antoine Bechroom. Certains opérateurs de registre limitent les algorithmes parce qu'ils veulent être à même d'exclure les anciens algorithmes une fois qu'ils ne sont plus sûrs. Leur objectif est de faire autant d'argent que possible. Ces opérateurs de registre peuvent avoir différents objectifs comme la confiance, la sécurité et vouloir contrôler leur image publique dans le domaine. Il n'y a pas de TLD qui s'adapte à tout le monde. Ils ne sont pas capitalistes, démocratiques, communistes ou multiparties prenantes. Donc il faudrait mettre en œuvre les nouveaux algorithmes plus vite et enlever les algorithmes non sûrs par leur et les remplacer par leur algorithme parent. Dan au micro, oui, très bon commentaire. Robert au micro. Non, non, je ne suis plus anonyme. Donc, Robert de PCH. Je me demandais si quelqu'un a déjà eu l'expérience dans la non-conformité, ou plutôt le fait que des personnes ne respectent pas les instructions qui sont données par rapport à la sécurité de l'algorithme. Jeff au micro. L'IETF devrait le retirer de la liste et ensuite, nous, on l'enlève. À cet égard, on ne veut pas être vu comme l'organe police dans le monde ou chargé des cryptographes. Nouvel intervenant au micro. Donc, finalement, il reste sans signature plutôt qu'avec une signature inappropriée. Nouvel intervenant au micro. Oui, outre les algorithmes pour encryption, il y a d'autres algorithmes. Et lorsque vous tapez tab 1, ça s'élimine. Donc, autre question que j'aimerais poser. Pensez-vous que l'on devrait utiliser les types multiples ? Dan au micro, oui, vous avez raison. Vous vouliez faire un commentaire final ? Non, c'est pas la peine. Bon, je ne sais pas si on a résolu quelque chose ici, mais je crois qu'on a parlé des défis. Ça, c'est une bonne chose. Et je crois que ce que je vous encouragerais à faire, c'est de regarder le projet d'André, le rapport de projet pour renforcer le DNSSEC. On a parlé également des moyens de renforcer le déploiement. Et je vous inviterai à réfléchir pour le prochain atelier de travail sur le DNSSEC des solutions qu'on pourrait apporter pour faire en sorte que ça aille plus vite. Donc, si vous voulez participer à cet atelier de travail avant la réunion de l'IETF de Buenos Aires, n'hésitez pas à parler à André. Merci. Et les membres du panel suivant peuvent venir à la table.
Hello.
Because I'm going to do the beginning 10 minutes. Yeah.
Someone needs a sweater.
It would not fit.
Anyone? Free jacket? Free jacket. Sorry.
Did anyone leave that jacket right?
Dan, pardon. Il reste une veste dans la salle, si quelqu'un la veut. C'est vraiment une super veste qui vient de Washington, D.C. Size extra large, $5. Une nouvelle personne au micro. Voilà, donc Ross Mandy avec SAC et mon employeur. Nous allons maintenant voir la dernière séance de la journée. Nous allons parler du roulement de clés dans la zone racine. Tout d'abord, je vais parler de ce que le SAC a publié. Quand il s'agit du roulement de clés, Jeff Houston va nous parler des résultats de l'équipe de conception qui a été fait l'année dernière. Le rapport a été publié lundi. Je pense que c'était lundi. Donc le rapport est donc disponible pour le public. Et pour Google, nous allons recevoir des perspectives de l'impact pour l'utilisateur lorsqu'il s'agit du roulement de clés. Et puis, il y en a qui n'est pas relié avec la validation pour Google. Quelqu'un viendra vous parler. Il connaît beaucoup de choses. Il pourra vous en faire part. En tout premier, parlons de l'avis SAC et les commentaires sur la sur le roulement de clés. Donc, nous allons parler du SAC 063, qui est l'avis SAC du DNSSEC, du roulement de clés DNSSEC dans la zone racine. Tout d'abord, il y avait une série de discussions qui ont eu lieu pendant un an et demi, mais le SAC a souligné cela en tant qu'un sujet très important pendant plusieurs années. Nous voulons donc encourager la communauté à commencer à travailler. Dans les temps. Donc, nous avons commencé à travailler sur cela en 2013 et cela a été publié on a commencé en 2012 et ça a été publié en 2013. Il y a donc plusieurs domaines dans lesquels nous avons écrit, sur lesquels nous avons écrit des documents sur tous les sujets intéressants que l'on devait considérer pour participer dans ce roulement. Alors que le temps passe, il y a des choses qui sont importantes, qui pourraient avoir un impact et qui vont changer. Donc, à partir des documents ou des descriptions dont on va parler avec ce panel, celui-ci est le document le plus vieux qui avait été publié en novembre 2013. Je vais passer directement aux recommandations. La première recommandation souligne le fait que le personnel de l'ICANN et les partenaires de gestion de la zone racine mettent quelque chose en place et avec ces trois parties, le NTIA, l'ICANN et les partenaires de gestion de zone racine devraient mettre en place une campagne de communication pour prévenir le monde entier que les choses vont être mises en place. Encore une fois, le personnel de l'ICANN devrait mener, encourager et soutenir le développement de testing pour examiner l'impact du roulement sur ce qu'on appelle les middle box et sur les autres machines qui seraient donc impactées par ce rollover. Surtout pour ces machines middle box, ne soient pas laissées de côté ou ne soient pas cassées quand le rollover arrive, quand le roulement arrive. Donc, le personnel d'ICANN devrait travailler de façon rapprochée avec la communauté afin de décrire ce que sera la cassure. Et cela est vraiment une inquiétude pour le RSAC. Nous savons qu'il y aura des problèmes causés par le roulement. Nous n'avons pas encore défini ces problèmes. Nous pensons qu'il serait mieux de demander au personnel de l'ICANN de nous dire ce que ces problèmes vont être. Mais c'est important d'observer ces phénomènes. Ainsi, si vous avez plus de problèmes que vous l'attendez, vous pouvez donc agir. La dernière recommandation, ne passe pas bien, ne fonctionne vraiment pas bien et qu'il y ait un échec, vous devez être capable de revenir en arrière vers l'étape préalable. Vous avez besoin d'avoir mis en place des déterminations pour pouvoir qui va prendre ces décisions. Quels sont les paramètres qui vont être utilisés pour faire cette décision, prendre cette décision, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien en place. On ne sait que rouler une clé vers en amont parce que on n'a jamais eu le faire pour la racine elle-même. Donc, il y aura peut-être Il va peut-être falloir la ramener en arrière. Donc, il y a donc des choses qu'on devrait faire pour être prêt. La dernière recommandation est que on devrait récolter autant d'informations que possible et essayer de comprendre quelles seraient les informations importantes à récolter avec pour que durant ce roulement, vous ayez assez d'informations, de données à utiliser pour pouvoir comparer avec le prochain roulement à venir. Vous devez récolter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir apprendre et mieux faire les choses la prochaine fois. Voilà donc nos 5 recommandations. Si nous pouvions passer à la prochaine diapo. Et ensuite, nous avons le rapport SAC 73. Nous avons soumis nos commentaires sur une version préliminaire du rapport de l'équipe de conception dont Jacques parlera tout à l'heure. Dans ce document, nous avons mentionné que l'équipe de conception n'avait pas inclus dans la version préliminaire les informations liées au SAC 63. Voilà donc un groupe qui travaillait sur la conception technique du roulement de clés et un groupe qui avait rassemblé plusieurs informations déjà sur cela, et on n'a pas l'impression qu'il y ait une corrélation entre les deux. On s'est rendu compte de cela et on voudrait suggérer qu'il serait important d'incorporer ces détails. Et on demande aussi au conseil d'administration de nous donner une mise à jour sur l'état des choses avec le SAC 63 en ce moment. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses en cours avec le SAC. Nous allons. Les diapos sont sur l'écran. Je voudrais passer là-dessus assez vite pour qu'on puisse rester dans les temps. Prochaine diapo. Et nous attendrons pour la fin des présentations du panel avant de recevoir vos questions. On va passer la parole à Jeff. Merci, Ross. Je suis Jeff Houston. Je vais passer assez rapidement sur toutes mes diapositives. Ma présentation, voilà donc une chose importante. Parce que nous sommes arrivés à un moment où 1 sur 6 des utilisateurs, approximativement, ne va pas pouvoir résoudre un nom si le nom n'a pas été bien signé au sein du DNSSEC. Avec le DNSSEC, pardon. Cela veut dire que si vous mettez votre signature dans le DNSSEC, une personne sur 6 ne vous verra plus. Donc, si vous faites la racine, si vous marquez la racine de la validation, voilà où se trouvera l'impact. Donc, il y a quelque chose que nous avons. Voilà le momentum que nous avons pour l'utilisation du DNSSEC. Si la signature n'est pas bien faite, il y aura beaucoup de gens sur l'Internet qui ne pourront pas résoudre ce nom. C'est cela ce que nous voulons exactement. Donc, c'est un chiffre intéressant et important parce que si vous vouliez demander aux gens que si on fait notre roulement de clés de façon négative, ces gens auront de sérieux problèmes de DNS ce jour-là. Ce ne serait donc pas une bonne chose. Nous revenons en arrière. Il y a 5 ans et 9 mois. Il y avait eu un problème dans la presse parce qu'il y a des choses qui avaient été signées au mois de juin de cette année-là. Et voilà donc un document critique qui est un certificat de la déclaration de pratique de DNSSEC publié à l'ICANN sur ce qui allait être fait avec cette clé. C'est une déclaration importante parce que sans cette déclaration, cette clé publique, ce n'est juste qu'un ensemble de bits. Donc, on va prendre cette clé privée, on va la mettre sur le monde, sur la porte, sur toutes les portes qu'on va trouver, et puis vous ne pourrez pas y faire confiance. La seule raison pour laquelle vous devriez y faire confiance, c'est à cause de ce document précis, parce que ce document est un engagement de l'ICANN sur la manière où ils vont gérer toutes ces bits. Donc, vous ne devriez faire confiance qu'à ces bits si l'ICANN suit son engagement. Ces engagements de l'ICANN ne leur ont pas été imposés. et tout est très, très bien énuméré dans ce document. Et voyez, la partie qui est encerclée dit que cela sera roulé. Excusez-moi, mon Dieu, je n'arrive pas à lire ce que j'ai sur l'écran. Chaque zone de racine qui sera faite sera roulée avec une cérémonie de clé comme prévu ou après 5 ans d'opération. Cela veut dire beaucoup de choses, 5 ans d'opération, de fonctionnement, 5 ans de fonctionnement. Pour nous, pour l'équipe de conception, cela veut dire au 5e anniversaire de la création de la clé. Par exemple, ici, dans ce cas-là, 2015. Mais une fois qu'on est arrivé en janvier 2015, il était bien clair qu'on n'allait pas y arriver. Mais on pensait qu'il y avait un engagement de ce côté-là pour qu'on puisse le faire. Il fallait que cela fonctionne parce qu'on s'était engagé et c'était l'engagement de confiance pour cette clé. Si on ne faisait pas ça, on aurait eu un problème. Un petit peu d'historique. Il y a 2 clés dans la zone racine. On ne parle pas des clés pour signer la zone. Ces clés pour signer la zone, et cette clé est roulée tous les trimestres. Donc 1er avril, 1er janvier, 1er avril, etc. Cette clé est roulée, disons. C'est une chose automatique. La nouvelle clé est publiée pour 10 jours. La clé change. Et ensuite, cette clé est gérée par VeriSign en tant que poursuivre le contrat que nous avons au niveau opérationnel. La raison pour laquelle ils peuvent le faire, c'est qu'il y a une clé au-dessus de ça qui s'appelle la KSK. Cette clé est utilisée pour signer la clé. C'est pour ça que vos résolveurs puissent suivre magiquement les changements, qu'il n'y a rien pour vous que vous devez faire. C'est automatique. La clé qui signe la clé est différente. C'est la chose que tous les résolveurs dont tous les résolveurs ont une copie. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de votre machine, de ma machine, si nos deux machines font la validation DNSSEC, bien sûr. C'est, ça fait partie des données. La vraie clé, la clé privée, est gardée hors ligne dans un endroit très sécurisé. Et ils ont des gardes, des chiens, tout ça pour la garder. Except en Californie, parce qu'en Californie, les choses sont très relaxes. Nous avons vu ça à Amsterdam. Et ensuite, il n'y a pas. ACAN n'est pas l'un des acteurs. Il y a un arrangement qu'on a avec le département du commerce américain, qui est un des partenaires. Et puis, bien sûr, VeriSign est un partenaire. Nous avons été formés en tant qu'équipe de conception l'année dernière et tous ces partis aident afin qu'on puisse avoir une bonne conception pour pouvoir rouler cette clé. Donc, il y a un peu d'historique. Vous en avez entendu parler de Ross tout à l'heure. Il y a eu des consultations qui n'incluaient pas l'équipe de conception en 2012. Ensuite, nous avons eu une recherche d'ingénierie détaillée en 2013. Et ensuite, il y a eu une étude ESSAC en 2013 et une équipe de conception de roulement de clés en 2015. Nous avons discuté cela beaucoup en 2015. Nous voulions savoir comment les choses fonctionnaient. Nous avons vu aussi une version préliminaire, un rapport de version préliminaire qui a été publié pour commentaires en août. Et en octobre, nous avons préparé notre rapport final et jusqu'au mois de novembre, d'ailleurs. En premier, le roulement de clé est important parce que tout le monde a une copie de la clé. Comment est-ce qu'on rend les choses automatiques? Comment est-ce que tout le monde obtient la nouvelle clé pour remplacer l'ancienne clé? Il n'y a rien au-dessus de cela. Il n'y a pas de façon automatique de faire cela. Il n'y a pas de mécanisme de confiance que l'on puisse utiliser. Donc, c'est le problème. Le problème aussi, c'est que si on se trompe, notre validation n'est pas bonne. Et on a la vieille clé. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de signer avec une clé différente. Ça s'appelle surfer. Ça veut dire l'échec. Ça veut dire qu'on est dans un trou noir. Il faut comprendre les protocoles. Et donc, si les protocoles sont suivis, ça vous dit que vous n'allez pas recevoir une réponse. Et c'est un échec. C'est un échec dur et pas un échec doux. Ce qu'on fait, c'est utiliser un autre truc de cryptographie, si vous voulez. on s'attend à ce qu'aucune clé ne soit compromise quand on arrive au roulement de clé. Mais ça ne marche pas si la clé est compromise. On s'attend à ce que tout se passe bien. Et comment on développe la confiance dans la nouvelle clé, c'est qu'elle soit signée par la vieille clé. Si on a confiance dans la vieille clé, on sait que la vieille clé peut signer la bonne clé, la nouvelle clé, et la nouvelle clé sera donc bonne. Donc c'est un mécanisme que nous utilisons. C'est documenté dans le ARC 1511. Si on publie cette nouvelle clé et qu'on l'inclut dans la zone racine, mais que vous signez cette clé avec l'ancienne clé, et que vous laissez tout cela là pendant un moment, si vos résolveurs suivent bien, et qu'elles peuvent suivre le rôle de cette clé, ça c'est encore une fois si ils le font. Donc on se dit, la nouvelle clé va dire, si je télécharge ces nouvelles valeurs et que je les mets dans le cache à côté des anciennes valeurs, ainsi on peut avoir les deux signatures et ainsi, puisque c'est très, très dangereux de le faire, il ne faut pas laisser de vieux matériaux dans votre résolveur, de données dans votre résolveur. Si j'arrive 5 ans plus tard et que je trouve l'ancienne clé et que j'y fais confiance, là, on a un gros problème. Donc, on essaie de faire un peu un nettoyage public et on essaie de révoquer l'ancienne clé. On la republie, mais là, il y a une bit dans la signature que ça dit, bon, si on la trouve dans le cache local, on peut la retirer. Il ne faut pas l'utiliser. Voilà donc les étapes. Cela prend 3 trimestres, 9 mois. C'est fait exprès. En haut, vous voyez la clé qui signe la zone, qui est en rotation tous les trimestres. Donc, il publie l'ancienne clé. Bon, 10 jours, il passe à la nouvelle clé de zone pour notre 70 jours. Et les prochains 10 jours, il publie la prochaine clé pour signer la zone. Donc, en bas, vous avez le processus pour la clé qui signe la clé. Donc, pour le premier trimestre, au 10e jour, la nouvelle clé est introduite. Elle n'est pas utilisée, elle est seulement introduite. Au premier jour du 2e trimestre, la vieille clé va disparaître. Je sais que je vais au-delà de mon temps, mais ce n'est pas grave. Donc, l'ancienne clé va disparaître. Ce que vous avez maintenant, c'est seulement la nouvelle clé. Si vous n'avez pas débarrassé de si vous n'avez pas encore utilisé la nouvelle clé, vous avez un problème. Et pendant les jours, on va continuer. Ensuite, si tout va bien, le plan veut que la nouvelle clé sera republiée et on vous dit détruisez la vieille copie. Voilà donc les 3 points critiques, les 3 étapes critiques, le préchargement, le changement, donc le roulement critique et le point de non-retour, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, on s'attend à ce que cela va fonctionner, n'est-ce pas, si tout le monde fait la chose correspondante. Donc, le RFC 5011 est soutenu par les résolveurs. Nous savons que les réponses seront importantes et tout se passera très bien, n'est-ce pas? Voilà, bien sûr, ça, on n'en parle même pas, comme vous le voyez sur l'écran. Le premier problème, c'est que certains résolveurs vont vous dire « Moi, je gère ma clé de confiance manuellement. » Peu importe ce que vous faites au niveau de la zone racine, cela va prendre beaucoup de configuration pour changer la clé. Ils ont un problème, soit ils font attention ou alors, oubliez tout, ils seront dans l'échec. Donc, c'est le premier problème. Le deuxième problème, si ces réponses deviennent plus importantes et que le DNS ne peut pas gérer de gros paquets et que le réseau, le chemin, la voie du réseau entre les deux ne puisse pas fonctionner, vous allez peut-être pas recevoir la réponse. Le réseau ne va pas forcément pouvoir transporter toutes ces réponses.
Alors, première préoccupation technique. Certains de ces résolveurs ne supportent pas le roulement de clés. Combien ? On ne sait pas. Combien d'utilisateurs ? On ne le sait pas non plus. Alors, que vont-ils faire pour valider les échecs ? D'abord, vous allez faire du thrashing. Essayez. J'ai des preuves ici de cela. Et sinon, on va vous dire non. Simplement, non. Il n'y a pas de réponse à aucune question. Non, tout simplement. Et que vont faire les utilisateurs lorsque il y a un retour résolveur? Certains vont être des résolveurs non validants. Et non, ça veut dire non, ça veut dire noir dans cette situation. Donc, on ne peut pas tester cela pour vous à l'avance. On a essayé tout type de choses pour voir comment s'immiscer et voir comment on peut traiter ce genre de résolveur. On ne peut pas, on ne sait tout simplement pas comment faire. Et on va le découvrir lorsque cela va se produire. Ça, c'est la réalité des choses. Là, il y a beaucoup de choses en jeu autour du DNSSEC. Toutes les requêtes ont un ensemble DNSSEC OK. 87%, je vous le disais, ça fait beaucoup de DNSSEC, ça. 33% des requêtes DNSSEC OK aussi tentent de valider la réponse. Et la moitié utiliseront un résolveur qui va valider et la moitié, on va leur dire non, ça veut dire non. On sait tous que tout ce qui est de moins de 500 octets, hein, 1500 pardon, octets, ne va pas marcher. Au-delà de 1350 octets, les choses se corsent. C'est ce qu'on voit. C'est que environ 6% des requêtes reçoivent un bout tronqué dans les réponses et ils vont devoir utiliser les TCP. Tous les résolveurs n'aiment pas utiliser le TCP. Et il y a un taux d'échec de 1 à 3% environ. .org, de l'autre côté, a utilisé DNSK, à 1650 octets. Je ne sais absolument pas quelle est leur expérience. Personne n'a dit « Oh, c'était affreux, ça n'a absolument pas marché ». Donc, on a ces informations conflictuelles qui disent 1 à 2% va mourir. .org semble résister à 1650 octets. Donc, c'est l'Internet, tout peut se produire. On ne sait pas non plus combien utilise le RFC 51. Donc, certaines choses vont échouer. D'abord, résolveur non validant. Certains résolveurs peuvent donner une validation. Et sinon, il ne se produira rien. Alors, cette diapo, elle a été faite un peu avant le changement. J'allais vous montrer le rapport avant qu'il soit publié. Parce que moi, j'étais un peu fâchée qu'il ne soit pas publié. Mais l'ICANN a décidé de le publier lundi. Donc ça, c'était dimanche. Or, lundi, l'ICANN a décidé de le publier. Donc c'est publié depuis lundi. Là, vous le voyez encore à l'écran. Je vais vous laisser lire ces recommandations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Attendez. Recommandation 16. Ce qu'on dit à l'ICANN. Est-ce qu'il y a une manière de mesurer, de voir si ce problème est pire que ce à quoi on s'attendait? Si on obtient plus de 50% d'utilisateurs qui continuent à utiliser ces points critiques, alors il est peut-être temps de réfléchir bien à une solution immédiatement. Ça a été notre meilleure réponse à un dommage grave après 3 jours. Ça, c'est contestable. Mais ce qu'on essayait de faire, c'est quelle est la mesure du dommage. Ça, c'est une bonne mesure. Et ça, c'est le calendrier qu'on propose, en fait. À l'époque où ce rapport n'avait pas encore été publié. Le 1er avril, ça semblait être agressif. Mais ça n'est pas aussi dur que cela semble être. Les 9 premiers mois, c'est la cérémonie de signature de clé. Aucun changement pour la zone racine. Mais on donne 9 mois pour ouvrir la clé, avoir la cérémonie signature de clé, etc. Faire tout cela, puis roulement de clé. Et les choses se corsent le 1er avril, 1er janvier, pardon, avec, donc il y aura plus de clés. Le 1er avril 2017, il n'y aura plus d'anciennes clés, de vieilles clés. Voilà comment fonctionnent les choses. Et donc, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de dommages, tout devrait s'achever en septembre. Que pouvez-vous faire? Il y a quelque chose que vous pouvez faire, d'ailleurs, vous devez faire. Si vous voyez quelque chose sur votre résolveur qui ressemble à cela, vous pouvez aller vous recoucher. Vous faites un bon boulot parce que maintenant, les choses vont marcher. Diapo suivante, alors là, vous avez un problème. Si vous voyez ce message, il faut que vous soyez attentif parce que sinon, vous allez mourir et on ne pourra rien faire. Donc, voilà ces deux diapos. Si vous utilisez les clés, faites très attention dans les 2 années à venir. Si le calendrier change, il faut que vous en soyez conscient parce que c'est vous qui allez gérer cela. Si vous avez ce premier message, c'est bon. Si vous avez ce deuxième message, vous aurez des problèmes. Race au micro. Oui, merci de cette excellente présentation. Vous vouliez... Non ? Des questions ? On passe aux questions. Warren dit que Jeff a déjà dit tout ce qu'il voulait dire. Donc, on va passer aux questions maintenant. Robert. Merci, Robert, PCH. Alors, du point de vue des clés, ça veut dire aussi qu'il faut bloquer les fichiers. Si vous ne l'avez pas configuré, ça ne va pas marcher de toute façon. Est-ce que vous pouvez revenir à la diapo sur le calendrier avec les couleurs? Oui, en fait, j'avais une question sur cette diapo. Oui, au début du deuxième trimestre, lorsque vous commencez la signature de clé, vous dites lorsque vous retirez la première clé. Oui, il est dit que en 2016, les enregistrements seront signés par la nouvelle clé et les contenus de ces enregistrements de ressources seront la clé de signature sortante. Tout cela a été pensé pour minimiser la taille de la réponse. Il s'agit de la voie minimale qui ne livre pas des informations redondantes dans la réponse clé. C'est la taille la plus petite qu'on peut trouver. En dépit de cela, lors de la troisième clé, il faut remplir avec 2 signatures, l'une révoquée, l'autre non. Donc, ce point est de 12,97 octets. Et là, vous allez avoir un problème. Robert au micro, oui. Peut-être que vous avez un RSAC avec un TTLL et que vous retirez l'ancien DSK. Là, vous avez un problème, c'est ça? Jeff au micro, si vous avez une gestion de clé automatique, alors la nouvelle clé, parce qu'elle fait partie de votre clé fiable, vous avez validé l'enregistrement DNS à ce point-là. Point Robert, oui, donc avec point UK, comment je fais? Mais point UK est signé, donc il n'y a pas de problème. Robert au micro, oui, peut-être. Peut-être. Ross au micro, oui, justement, c'est le genre de choses qu'on regardait dans le RFC 5011. Mais en tout cas, ces discussions sont très encourageantes. Je suis sûre qu'il y aura d'autres questions dans la salle. Non ? Oui, allez-y.
Bonjour, Adel Faiz, je suis d'Arabie Saoudite. J'ai une question concernant l'algorithme et la longueur de la clé pour la route, pour la racine. Est-ce que ça, elles vont changer ces longueurs? Jeff au micro, est-ce que vous pourriez... En fait, j'ai des questions que vous auriez dû poser, qui figurent dans ma présentation, à la fin de ma présentation. Attendez. Non, allez-y. Et en fait, je vais vous donner un prix parce que vous avez posé justement l'une de ces questions. Voilà, la voici. Est-ce qu'on devrait faire un changement d'algorithme aussi? Il est vrai que nous sommes moins préoccupés si nous utilisons le CDSA parce que le grand problème concernant les paquets va disparaître. Si vous passez à le CDSA, alors la réponse sera beaucoup plus petite. Là, en fait, on essaie d'être conservateur et de changer une chose à la fois, mais il y a une approche plus agressive pour modifier le protocole aussi. Et c'est la première fois que le monde est en train de faire face à un changement de la KSK. Donc, soit on est conservateur, soit on veut apporter de grandes réponses. Tant que les choses restent les mêmes, y compris la taille de la clé de la zone racine, alors le dommage sera minimal, mais ce sera bon, d'après moi. Là, si les choses passent à une plus grande échelle, là, on va avoir des problèmes. Et nous pensions que nous ne pouvions pas ignorer le CDSA, mais qu'on devait envisager ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait se passer si on modifiait le protocole. Ross au micro, oui, pour ajouter quelque chose. Le RSAC, le SAC 63, on a parlé en interne. Et on n'a pas de détails là-dessus, mais le résultat, c'est qu'il y a un rapport qui dit que vous devriez faire d'abord le roulement de clés, d'abord. Ensuite, l'algorithme, mais une chose à la fois. Personne dans la salle par rapport à la taille de la clé. Ross au micro. Oui, la longueur n'a pas été étudiée. Jeff au micro. Les avis qu'on a reçus de la part des experts en algorithmes figurent dans le rapport. Ne pas modifier cette longueur. Alors, par rapport au 10-24 bits et aux implications par rapport au fait de changer la KSK, etc., d'utiliser tel ou tel autre, ça figure dans le rapport. Ross au micro. Oui, l'une des questions importantes, c'est qu'il faut que les gens surveillent avec grand soin leur système. Ça, il faut diffuser ce message. Il faut que les gens soient très prudents, surveillent de près les choses. Warren au micro, oui, moi j'ai travaillé avec Ross sur SAC 63. Et je crois que je suis d'accord avec toutes les recommandations qui figurent ici. Il est important de dire qu'il y a d'autres documents qui font presque les mêmes recommandations que le document SAC 63. Il y a eu au moins deux périodes de commentaires publics, dont celui du RZM. Donc, il est intéressant de voir que la communauté technique semble être toute sur la même longueur d'onde en disant qu'il faut avancer. Et je crois que jusqu'à présent, tout le monde, en tout cas tous les rapports que j'ai vus, ont suggéré de la même chose, c'est-à-dire maintenir le RSA actuel. Ross au micro, y a-t-il d'autres questions? Dan au micro. J'aimerais remercier cette équipe de conception KSK et les remercier de toutes les heures qu'ils ont consacrées pour élaborer ce document. Merci. Jeff au micro. Paul, vous êtes là? Y a-t-il d'autres personnes de l'équipe de conception? André, il est parti. Paul, André, merci beaucoup à tous les deux. Autre intervenant au micro, étant donné qu'on a du temps, non, on n'en a pas. Vous dites que 16% des gens ne vont pas pouvoir résoudre les réponses invalides. Vous dites aussi qu'il y a beaucoup de résolveurs qui servent ces gens. Mais ça laisse encore beaucoup de gens qui sont potentiellement en situation de risque. Vous parlez d'un certain pourcentage après 3 jours, ça c'est acceptable. Mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir faire fonctionner leur DNS. Comment vous expliquez cela? Jeff au micro. J'adorerais vous donner un chiffre zéro. Aucun dommage après 3 jours. Et tout va bien fonctionner. Je ne pense pas que ce soit réaliste dans le monde de la technologie avec les variations dont on est témoin. Même si maintenant il y a des dommages DNSSEC qu'on observe. Mais ça semblait être un chiffre raisonnable. Ce qu'on essayait de dire, c'est que si on ne peut pas mesurer ces choses, on doit être en mesure de donner une fourchette. Oui, parce que ce ne serait pas une mesure fiable si on passait en dessous des 10%. Donc, fixer un calendrier qui soit raisonnable, ça aussi, ça a été difficile. Comment est-ce que vous pouvez faire au pif? Parce que s'il y a un réel dommage, il faut pouvoir se retirer. Mais voilà ce sur quoi on s'est basé. Ross au micro, merci. J'aimerais remercier les membres du panel et j'aimerais inviter toutes les personnes à voir l'URL qui figurait à l'écran, examiner ce document en détail parce qu'il y a des informations particulièrement importantes pour les gens que ça intéresse. Donc merci Jeff, merci Warren.
We're good. Hey.
Dan, au micro, nous arrivons vers la fin de notre séance. Je remercie donc tous les gens qui sont ici. Certains d'entre vous sont là depuis 9 heures du matin. Je vous applaudis. On s'applaudit soi-même, d'ailleurs. Nous voudrions résumer la chose en faisant des suggestions afin que vous puissiez nous aider. Donc, je vais dire que si vous êtes un opérateur de TLD ou de CCTLD, on vous demande de signer votre TLD. Nous avons entendu dire durant la journée qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Si vous êtes dans cette région d'Afrique, vous avez les Afriniques qui viendront faire des ateliers chez vous. Si vous n'êtes pas en Afrique, il y a d'autres ressources qui viennent de l'ICANN et qui vous permettront de faire ces mêmes ateliers. Nous demandons aussi que les gens reçoivent les enregistrements DS afin de travailler avec les bureaux d'enregistrement. Nous avons des statistiques. Vous avez vu les diagrammes que l'on avait à l'écran. Et nous aimerions que nous ayons que tous les TLD pertinents soient inclus. Nous demandons aux opérateurs de TLD de suivre ces étapes. Ross, micro. Les autres opérateurs, autres que les TLD, si vous opérez des serveurs DNS, faites le DNSSEC. Ce n'est pas si difficile que ça. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a énormément d'aide et de soutien, de ressources dont vous pouvez bénéficier. Les gens dans cette communauté sont veulent vraiment aider. Si vous avez un problème, vous pouvez retourner vers ces laboratoires, ces ateliers pour voir qui a parlé de quoi. Et je peux vous garantir que si vous envoyez un courriel, vous recevrez de la réponse avec beaucoup d'informations. Les statistiques sont importantes. Nous aimerions bien récolter plus de données pour voir ce qui se passe dans l'espace des NSSEC. Si vous êtes un ISP, démarrez les validations. Nous aimerions que cela augmente. Nous aimerions voir plus de validations. C'est un point critique parce qu'ainsi, nous recevons du retour de sociétés quand on parle de signatures qui disent pourquoi devrions-nous signer, devrons-nous signer puisqu'il n'y a, nous ne voyons pas de validation. Et là, ainsi, on peut leur montrer les chiffres et leur montrer combien de validation est faite de tel, à tel et tel endroit. C'est une chose réelle. Vous devez le faire. Donc, on a besoin de plus d'engagement. Nous devons passer de 14 à 15% à des pourcentages plus élevés. C'est une chose très simple. Il suffit de permettre les gens de le faire. Vous devez prendre conscience qu'à cause de vous, certaines personnes ne le feront pas. Il faut préparer votre personnel de support pour qu'ils puissent accélérer les choses. Il faut signer donc votre zone aussi. Nous aimerions que vous promouvoir le protocole DEN. On n'en a pas parlé beaucoup cette fois-ci, mais nous encourageons les gens à promouvoir ce protocole. Si vous êtes un fournisseur de sites web ou de contenu, signez vos zones. Si vous êtes un opérateur de site web, il y a une chance que si vous opérez votre site web, vous opérez certainement votre support DNS. Si vous avez décentralisé la gestion de votre site web, allez voir les gens qui opèrent les machines et dites-leur que vous voulez que tout ceci soit signé. Vous voulez aussi soutenir DNA. Vous allez voir vos vendeurs et vous vous assurez qu'ils sont au courant du fait que vous vouliez le faire. Heureusement, avec le temps, les choses sont plus faciles. Beaucoup plus de vendeurs soutiennent cela. Mais beaucoup de nos vendeurs ont attendu. Et ces vendeurs sont venus nous voir, d'ailleurs. On nous a dit, personne ne le demande. C'est la même réponse que nous avons reçue à propos de la validation. Personne ne demande de validation. Personne ne demande de DNSSEC. Demandez à vos vendeurs et tous les services desquels vous achetez. Ce que tout le monde peut faire, Dan au micro, nous vous demandons d'utiliser DNSSEC vous-même. Utilisez la validation, signez votre propre domaine, faites ce que vous pouvez à votre titre pour que cela soit fait. Nous aimerions que vous partagiez vos leçons retenues, disons, vous aimerions que vous partagiez vos expériences. Vous avez entendu des choses intéressantes ici et aussi durant la journée technique. Nous aimerions vous proposer de venir à l'ICANN 56 où que cela se passe et aussi à ICANN 57. Et on continuera à travailler à partir de ça. Et comme Julie l'a dit, les choses officielles se passent bien sûr quand le conseil d'administration vote. Mais bon, ça dépend où on va être, bien sûr. Nous aurons un panel régional. Cela dépendra où nous allons aller, bien sûr. Par exemple, ici, nous avions des gens d'Afrique. Et où nous serons la prochaine fois, nous pourrons demander à des gens des régions de venir nous rejoindre. Nous voulons que vous aussi puissiez le faire. On m'a demandé aujourd'hui s'il y a une manière de rester connecté avec les gens entre les réunions. Il y a une liste de distribution que nous appelons la liste de coordination du DNSSEC, DNSSEC-ORG. Vous pouvez rejoindre cette liste et partager vos informations. Nous avons aussi une téléconférence mensuelle, le premier jeudi de chaque mois, sauf pour ce mois, bien sûr. Mais d'habitude, dans la plupart des cas, c'est le premier jeudi du mois et nous discutons pour parler de ces questions. Nous essayons de voir comment nous pouvons accélérer le déploiement. Et vous pouvez tous participer. Bien sûr, vous devez rejoindre la liste de distribution pour pouvoir être prévenu de ces téléconférences. Je voudrais remercier un couple de personnes, nos commanditaires, Afilia, Sira, Dyne et NSIDN. Et nous voudrions les applaudir. Sur ce, je voudrais vous dire que nous attendons encore de trouver un autre commanditaire pour nous aider pour la fin de 2016. Et puis, nous cherchons aussi un commanditaire pour la réunion que nous avons, la réunion de mise en œuvre que nous allons avoir plus tard. Donc, gardez ça en tête. Je voudrais aussi remercier à Julie et Cathy qui nous ont aidés pour que tout cela fonctionne très bien aujourd'hui.
With that.
Ross, Dan au micro, si vous voulez donc plus d'informations, voilà des sites web que nous avons sur l'écran, dnsfdeployment.org et les deux autres sites web qui sont inscrits sur l'écran. Le comité programme, c'est vous êtes d'accord, on peut réparer le problème. Il n'y a pas... The Point Internet Society, ça n'existe pas. C'est internetsociety.org, /deploy370. Il y a donc une erreur sur l'écran. Il y a aussi un lien sur la communauté DNSSEC pour que vous puissiez trouver la liste de distribution et les statistiques nécessaires. Merci à tous. Ross au micro. Un grand remerciement à notre côté département technique et à nos interprètes. Merci énormément. Dan, oui, avec les acronymes et tous les gens qui parlent très vite, ils ont eu beaucoup de travail aujourd'hui. Avec ça, nous devons finir, clore la séance et nous devons partir de cette salle assez rapidement. Nous avons 15 minutes. Merci beaucoup et jusqu'à la prochaine réunion à 15h55. 56, pardon.